plus on est intéressé en Bruno, et nous allons être très attentifs à leurs propos.
Bien, Shalom Aleichem. Alors d'abord, Potrim Birkvot Arsania. Quand on commence, c'est toujours en disant quelques mots pour ceux qui nous reçoivent, la communauté de Saint-Brice, Stéphane Assal, l'organisateur, monsieur le rabbin, monsieur le président, il n'est pas avec nous, il est où, monsieur le président ? Il était là, il va. Et surtout pour la communauté elle-même. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la communauté de Saint-Brice ? Hein ? Brice Koïdesh. C'est une communauté florissante, Baruch HaShem, aujourd'hui c'est une communauté qui bénéficie de l'Aliyah de Sarcelles. Petit à petit on vient s'installer à Saint-Brice. C'est une communauté dynamique. Ici vous avez la possibilité d'étudier, d'une certaine manière cette communauté c'est je mets entre guillemets une petite Jérusalem, au sens où vous avez des bateaux midrash, vous avez des rabbanim, vous avez des talmides chachamim, vous avez beaucoup de gens à portée de main ici, auxquels vous pouvez poser toutes sortes de questions, des questions de halakha, des questions de hashkafa, pensée juive, de chinour, d'éducation, de shalom bayit. Vous avez des rabbanim de qualité, vous avez des gens de qualité à portée de main. Ça n'est pas partout le cas, ça n'est pas comme ça partout. D'accord ? Ça, c'est un énorme atout, et ça, il faut le saluer, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Je vais céder la parole sans tarder à Jérémy Bérébi. On va faire deux interventions, centrées une sur vivre avec Hachem à tout moment. C'est une intervention centrée sur la Emouna, sur la foi. Votre serviteur ensuite interviendra sur Shalom Bayit. J'ai quelques petites choses à vous dire, très ciblées, car le sujet est très vaste, mais j'ai peut-être quelques petites choses à vous dire sur le sujet. Ensuite, après, on prendra le temps de se rencontrer, on pourrait répondre à vos questions. Et on restera ici pour discuter donc avec vous. Voilà. Alors je cède sur la parole.
Bonsoir. Ah, il y a quelques personnes qui arrivent, on va peut-être les attendre.
Alors juste une chose, vous avez ici les brochures qui sont là, elles sont à votre disposition, elles sont offertes par Toravos. On est ici dans le cadre d'une tournée de conférences qui est organisée par Toravos, vous connaissez un petit peu partout à Paris. Vous connaissez le site. Nous, on a l'habitude, certains d'entre vous nous ont vus, mais nous, on ne vous voit jamais. Alors l'intérêt pour nous, c'est de vous rencontrer, de discuter un petit peu avec vous, de vous écouter aussi, pour savoir aussi ce que vous avez à dire, et ce que vous avez à dire peut-être en temps pour le site également. Voilà.
Bonsoir à tous et à toutes, merci pour votre accueil. Donc on arrive directement de Bnei Brak. Ce matin, on a fait la tefila à Bnei Brak. Voilà, on fait mincha vite en France. Il y a quelques centaines d'années, il fallait des mois et des mois pour faire ça, ces voyages-là. On a la première mitzvah des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hoseticha, Me'eretz Mitzrayim, Mibet Avadim. La première mitzvah de la Torah, c'est le fait que Hashem nous avertit, nous annonce qu'il est notre Dieu. Alors, on peut se dire, bon, c'est quoi cette mitzvah ? C'est quoi spécialement cette mitzvah ? Tous les mefarshim, tous les commentateurs précisent que c'est la mitzvah. C'est-à-dire que le fait d'avoir la emouna en Dieu, la foi en Dieu, de savoir que Dieu est là à n'importe quel instant de notre vie, c'est la mitzvah cible de toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle mitzvah des 613 mitzvot, le but au final, c'est de savoir qu'Hachem contrôle le monde. Alors contrôle le monde, c'est quoi ? On pourrait se dire, bon, il a créé le monde, de temps en temps, il fait des miracles, la sortie d'Égypte, il va faire un grand événement, il va sauver quelqu'un d'un accident. Ou alors peut-être que ça va un peu plus loin que ça. Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Qui t'ai fait sortir d'Égypte ? Les commentateurs se demandent en disant, mais pourquoi qui t'ai fait sortir d'Égypte ? Pourquoi je ne suis pas ton Dieu qui a créé le monde ? Pourquoi je ne suis pas ton Dieu qui a fait pousser les plantes ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant la sortie d'Égypte ? La sortie d'Égypte a de particulier, c'est un événement où toutes les choses ont été millimétrées, c'est-à-dire tous les événements d'Hachem, toutes les interventions d'Hachem ont été organisées extrêmement précisément. On voit surtout qu'Hachem a participé et est arrivé sur Terre, a participé à un événement, a sorti le peuple, et pendant 40 ans dans le désert, les a nourris, logés, habillés. On dit que pendant, dans les Hanan et Kavod, dans les nuées, les Juifs avaient des vêtements et les vêtements ne se salissaient pas. C'est pratique. Donc, Hachem s'occupait de nous. Alors, on pourrait se dire, voilà, Hachem, c'est terminé, c'était une période. D'accord ? Il y a eu une période comme ça où Hachem était avec nous. Il s'occupait de nous, il s'occupait de notre parnassa, il s'occupait de nous nourrir, il s'occupait de nos vêtements. Mais on a un problème avec ça. Le problème, c'est que les 10 commandements démarrent avec « Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Et ces 10 commandements ne sont pas juste dédiés aux gens qui étaient présents au Mont Sinaï. Ils sont là aussi pour nous. C'est-à-dire que finalement, la sortie d'Égypte doit rester dans notre cœur en permanence, pas juste parce qu'on mange les matzot à Pessah, mais par le fait qu'il y a eu un événement où Dieu était présent tout le temps dans notre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui aussi, tu dois savoir qu'Hachem est présent tout le temps. Hachem est présent absolument tout le temps dans notre vie. Il y a un concept qui s'appelle la Hashgacha. La Hashgacha, c'est la providence divine. Le fait qu'Hachem participe à ta vie. C'est quoi participe ? Il le fait de deux manières. À la fois, Hachem surveille, c'est-à-dire qu'Hachem regarde toutes les actions de chacun d'entre nous, toutes les actions, absolument toutes. Et une autre partie qui sont des actions, en fonction de ce qu'il voit, Hachem va entraîner des événements autour de nous qui vont avoir lieu. Sur mesure, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch explique qu'à n'importe quelle seconde de notre vie, Hachem prépare la seconde d'après. On peut se demander, mais on n'a pas besoin. Hachem pourrait préparer les 20 prochaines années à l'avance. Non, non, non. On ne peut pas préparer les 20 prochaines années à l'avance. À chaque seconde, nous sommes quelqu'un de différent. À chaque seconde, nous avons la possibilité de nous améliorer. À chaque seconde, nous avons la possibilité d'aller dans telle ou telle direction. Et donc, Hachem nous fait une vie sur mesure en nous envoyant des événements, les uns après les autres, qui donc font partie de notre vie et qui sont là pour nous aider à vivre cette vie. C'est quoi nous aider à vivre cette vie ? Le but final de tout ça, c'est de nous aider à faire le bien. Maintenant, effectivement, malheureusement, on peut aussi aller vers le mal. Mais le but de tout ça, c'est qu'Hachem nous donne des opportunités en permanence pour faire le bien. Des opportunités en permanence pour nous sauver, pour nous améliorer, pour nous donner des opportunités de grandir, de vivre plus longtemps. Le 10e principe du judaïsme, qui est cité par le Rambam, c'est le fait que toutes les actions des hommes, Hachem connaît toutes les actions des hommes, et ne les ignore pas, à la différence de ceux qui disent que Dieu a abandonné le monde. Il y avait des grands penseurs, des grands philosophes qui disaient « Dieu a créé le monde ». Oui, oui, il y a bien Dieu qui a créé le monde. C'est sûr qu'un univers aussi cohérent ne peut pas être créé comme ça par un Big Bang. D'accord ? Enfin, il n'y a plus à avoir le Big Bang, mais en tout cas, n'est pas créé aléatoirement. Mais ça y est, Hachem est parti. Le 10e principe du judaïsme, c'est de savoir qu'Hachem est là à n'importe quel moment. Il y a une base dans la Torah qui est citée par le Ramban qui dit comme ça. Un homme n'a pas de part à la Torah de Moshe tant qu'il ne croit pas que toutes choses et événements sont des miracles. C'est-à-dire que même le fait que je vous parle maintenant, ça s'appelle un miracle. D'accord ? N'importe quelle chose qui est du vent, qui est de la lumière, qui est tout ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de bouger nos mains, ce sont des miracles. Qui n'ont aucune cause naturelle, ni ne font partie du fonctionnement normal du monde, et à la fois pour les événements arrivant pour une communauté, et pour des particuliers. Quelqu'un qui ne croit pas ça, n'a pas de part à la Torah de Moshe Rabbeinu, selon le Ramban. Seuls ceux qui respectent les commandements de la Torah recevront leur récompense, et que s'ils les enfreignent, leur punition les détruira, tout cela par décret divin. C'est-à-dire qu'il y a une intervention d'Hachem sur terre, et une intervention qui fait que n'importe quoi qui se passe, n'importe quels événements qui peuvent se passer devant vous, qui peuvent arriver chez vous, chez les autres, on va le voir, n'importe quel événement est orchestré par Akadosh Baruch Hu. On doit penser, nous avons une mitzvah, qui est une mitzvah chez En Azman Grama, c'est-à-dire que ce n'est pas une mitzvah qu'on doit faire à un temps particulier. Vous savez, il y a des mitzvot, par exemple, on fait sa prière de Shacharit le matin. on va faire Shabbat, le Shabbat. Mais il y a une mitzvah qui est en azman grama, qu'on doit faire absolument tout le temps, qui est la mitzvah de Emouna. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle seconde, à chaque fois que je dis « Dieu est avec moi », à chaque fois, je fais une mitzvah. À chaque fois, je fais une mitzvah qui est la première mitzvah des 10 commandements. Dans son livre, le Sifter Chaim, Rav Chaim Freelander précise comme ça. À chaque seconde, Dieu, via sa volonté, entraîne toute la création d'exister. De la plus petite créature à la plus grosse. Quand nous voyons un petit moucheron vivant et qui bouge, nous devons réfléchir et penser qu'à ce moment même, Dieu donne vie à ce moucheron. Et Dieu le fait bouger à ce moment-là. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que lorsqu'on analyse le monde, lorsqu'on regarde les choses, les événements qui ont lieu autour de nous, lorsqu'on lit, on regarde l'actualité, lorsqu'on regarde, on écoute son fils qui revient de l'école, qui nous raconte quelque chose, à n'importe quelle chose, Dieu est en train d'organiser un plan. Et Dieu est absolument présent. Et Dieu est en train d'organiser quelque chose à laquelle nous devons réagir nous-mêmes. Il y a donc un concept qui s'appelle l'Ashgacha Klalit. L'Ashgacha Klalit, c'est Dieu protège les hommes. D'accord ? On dit que par exemple pour les animaux, Dieu ne s'occupe pas de chaque animal un par un. Dieu envoie un ange qui s'occupe des animaux et cet ange-là a une mission qui est de préserver les vaches. D'accord ? Donc les vaches, que Fleurette ou Marguerite meurent, ça ne change rien. Qu'il arrive ci ou il arrive ça, ça ne change rien. Ça ne fait pas partie de la manière dont Hachem intervient dans le monde. C'est-à-dire que les animaux, la seule chose pourquoi est-ce qu'effectivement il y a un ange qui a une Ashgacha, donc il y a quand même une providence, les animaux sont juste, en fait c'est la survie de l'espèce qui est contrôlée par Dieu. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des vaches, il faut qu'il y ait 500 vaches. Celle-là ou celle-là lui arrive tel et tel événement, absolument aucune importance. Toutefois, le Radak précise que si une des bêtes est liée à la vie des hommes, si c'est le chien de Monsieur Cohen ou le chat de Madame Abitbol, à ce moment-là, effectivement, même là, même le chien, même la vie du chien, la mort ou la vie du chien, le fait qu'il va se faire écraser une patte, le fait qu'il va tomber malade, même ça est régi par Hachem en direct. Donc ça, à partir de là, on arrive, et pareil, dans un cas plus large, c'est si un lion s'évade du zoo et dévore des hommes, c'est Hachem qui a désiré ça et a même décidé quels hommes ont été ciblés. Il faut savoir qu'on voit plusieurs fois dans la Torah, on voit dans l'épisode de Yosef, Yosef est envoyé donc dans le puits par ses frères. À ce moment-là, on dit que le puits était rempli de serpents et de scorpions. Yosef n'a pas été touché par les serpents et les scorpions. Dieu n'avait pas décidé de toucher Yosef. Et de la même manière, Daniel, le prophète Daniel, a été envoyé dans la fosse aux lions. Pareil, il n'a pas été touché. C'est-à-dire que les animaux sont... C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas être touchés par les animaux si Hachem ne décide pas qu'ils doivent être touchés par les animaux. Et donc il y a... Ça, c'était l'Ashgacha Klalit. On surveille les animaux d'en haut, sauf effectivement s'ils sont liés à la vie des hommes. Il y a un autre concept qui s'appelle l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence divine particulière. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, absolument chacun, avons une vie personnalisée, qui est organisée pour Dieu à n'importe quel moment. Comme je l'expliquais, n'importe quel événement, n'importe quelle petite chose qui peut nous arriver est organisée par Dieu. Rabbi Hanina nous dit dans la Gemara, dans Chulin, personne ne lève son doigt à moins que cela soit annoncé de là-haut. Donc, chaque homme est jugé individuellement. Chaque homme est surveillé, entre guillemets, individuellement. Alors, on peut voir ça comme on dit « rasra », ok ? Au secours. Je suis surveillé en permanence. On dit « non, je suis protégé individuellement. Je suis en permanence avec Dieu qui veut mon bien » et qui va m'aider à m'améliorer pour aller vers le bien. Quelqu'un qui décide d'aller vers le mal, Dieu va l'aider à continuer à aller dans son mal. Il va lui donner des opportunités de faire tshuva, mais en général, il va pas l'aider. Mais quelqu'un qui veut vivre avec Hachem va être en permanence accompagné de Dieu. Et donc ça, quand on sait qu'on est accompagné de Dieu, on voit les événements de la vie différemment. C'est-à-dire que si je perds un contrat d'un client, je ne dis pas « Quelle catastrophe, ma boîte va couler !» Je dis « Ah, Dieu maintenant a décidé que ma boîte coule. » Et donc, il va se passer quelque chose. On passe maintenant à une étape différente. Il va se passer quelque chose de nouveau dans notre vie. Dans le désert, les Béné Israël sortaient, étaient dans le désert et allaient d'un point à un autre, d'une étape à un autre. Les Béné Israël, quand ils arrivaient dans une ville, ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester dans cette ville. D'accord ? Ils ne savaient pas qu'ils allaient rester à Soukot tel combien de jours, etc. Donc, il y a même certaines fois, à chaque fois, ils devaient remonter le Mishkan, ils devaient remonter les tentes, etc. Il y avait même certaines fois, ils n'avaient même pas fini de monter les tentes, hop, il fallait repartir. De la même manière, dans notre vie, on a des étapes comme ça qui se passent, où on a des périodes normales, stables, on a notre boulot, pépère, tous les jours, on a nos petites heures d'études, on a notre petite synagogue, et à un moment, paf, il se passe quelque chose. Un grand changement. Et le grand changement, c'est la chose qui déstabilise le plus. Quand on a un changement, on ne sait plus comment réagir. Mais non, mais j'étais bien. On dit non, Dieu maintenant t'envoie à la prochaine étape. Hachem t'envoie à la prochaine étape. Ça, c'est le principe de l'Hashgacha Pratit. On a, chacun d'entre nous, on est dirigé pour que les choses se passent étape par étape, pour nous faire évoluer, nous passer à des choses différentes. Il y a un Pirkei Avot qui dit comme ça. Je le dis directement en français pour aller vite. « Fais de sa volonté ta volonté, afin qu'il fasse de ta volonté sa volonté. » Je refais. « Fais de ta volonté sa volonté. » Donc fais ce que Hachem te demande pour que toi, ce que tu veux, Hachem le fasse. Annule ta volonté face à Dieu afin qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté. De la même manière, Hachem, finalement, si on est baigné par notre vie entourée de Dieu et si on décide de faire sa volonté, Hachem nous dit tu dois respecter les mitzvot, tu dois étudier la Torah, tu dois faire attention à ta femme ou à ton mari, tu dois faire attention à tes enfants. Tu fais ta volonté, c'est ça la volonté. La volonté, c'est pas juste venir à la synagogue, faire sa prière et sortir. Ça, c'est presque, on pourrait dire, un peu de l'idolâtrie. Je vais à la synagogue, j'ai l'impression d'avoir fait plaisir à Hachem et je sors de la synagogue, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus Hachem, il n'y a plus rien. Ah oui, il y a Shabbat. Non, non, mais à n'importe quelle minute, Hachem veut que tu fasses ta volonté. À n'importe quelle minute. Il faut venir à la synagogue quand même, hein, attention. Toutefois, si un homme décide d'aller contre la volonté de Dieu, alors cette vie-là, cette Hashgacha Pratit dont j'ai parlé, à ce moment-là, Hachem s'éloigne de lui. Hachem s'éloigne de sa vie. Et là, il va avoir une vie qui est gérée comme les animaux. C'est l'Hashgacha Klalit. Le fait qu'effectivement, Hachem s'occupe des hommes. Tu fais partie des hommes, donc Hachem va s'occuper de toi. Mais toi, tu ne t'approches pas de Dieu. Hachem ne va pas s'occuper de toi sur mesure. Tu ne veux pas t'approcher de lui, pourquoi tu veux qu'il s'approche de toi? Donc le Rambam précise que le niveau de Hashgacha, le niveau de providence divine, est fonction de notre proximité avec Hachem. Plus nous nous approchons de Dieu, plus lui s'approche de nous. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a l'habitude de dire « tout est pour le bien »,« akol letova ». Très souvent, quand on a un événement, on dit « akol letova ». Ah, tout est pour le bien. Mais très souvent, si on regarde bien, c'est quand ce sont des petits problèmes qu'on dit « ouais, tout est pour le bien ». Oui, ah, j'ai raté mon contrôle de maths, tout est pour le bien. Mais quand il y a des gros événements, on peut dire « ah, là, un problème, on pleure ». Il faut savoir que tous les malheurs du peuple juif ont démarré à Tisha B'Av, le 9 Av. Ont démarré quand les explorateurs, c'était la paracha d'il y a 2 semaines, les explorateurs devaient rentrer en Israël et ont commencé à dire « Oui, Israël, il y a des problèmes, on ne va pas y arriver, on ne va pas partir, etc. etc. » Et le peuple a pleuré. Le peuple a pleuré. Le peuple juif a pleuré. On dit au peuple juif « Tu as pleuré ce jour-là. Pendant des générations et des générations, tu pleuras ce jour-là. » Le 9 Av, qu'est-ce qui est arrivé le 9 Av? Donc, il y a eu les destructions des 2 temples. C'est arrivé le 9 Av. Il y a eu l'inquisition, le Guérouche Farad, l'inquisition d'Espagne, enfin, comment on appelle ça ? L'expulsion. L'expulsion d'Espagne, l'Espagne, qui a eu lieu pile le 2 août 1492. Le 2 août. La Première Guerre mondiale a démarré le 9 av. La Première Guerre mondiale a démarré le 9 av. Tous les malheurs, et on peut sortir plein d'exemples comme ça sur le 9 av. Tous les malheurs du peuple juif ont démarré pourquoi ? Parce que le peuple juif a pleuré. Et alors, pourquoi est-ce qu'est-ce qui est grave de pleurer ? Qu'est-ce qui est grave ? Ils ont peur. Ils ont peur. Dieu leur dit, on va aller dans une terre, il y a des grands, il y a des géants, etc. Mais pourquoi ne pas pleurer ? Quel est le problème ? Le peuple juif ne peut pas pleurer. Le peuple juif peut pleurer quand il a un malheur, effectivement, qui le touche, un deuil ou des choses comme ça. Et même ça, on dit, c'est 7 jours. Et après 1 an, et après ça y est. Une fois par an, on part à Ascara, mais le reste du temps, on reprend la vie. Le peuple juif ne peut pas pleurer. Le peuple juif ne peut pas râler. Quand il arrive n'importe quoi dans notre vie, on doit se dire, Hachem est là et nous ajuste, est juste en train de nous amener à notre prochaine étape. Ça marche, comme je l'ai expliqué, si nous-mêmes nous sentons et nous avons Hachem avec nous. Si nous-mêmes nous faisons la volonté d'Hachem. Alors maintenant, je vais vous raconter quelques histoires. Des histoires sympas qui, comment dire, pourraient s'adapter à n'importe qui d'entre nous. D'ailleurs, certaines me concernent, ça tombe bien. Et où on voit effectivement la main d'Hachem. Comment Hachem régit les choses. Et après, chacun d'entre vous, dans votre vie, vous allez vous rappeler et vous allez vous dire, ah, mais effectivement, moi aussi, il m'est arrivé tel et tel et tel événement et ça s'est passé comme ça, comme ça. Il y avait, en 1985, un Israélien est parti vivre au Mexique. Il est parti s'installer là-bas, il n'était pas religieux, il est venu un peu plus religieux sur place, jusqu'à devenir Shomer Shabbat. Et à un moment, il a une opportunité, il a l'opportunité d'acheter un immeuble. Il achète cet immeuble, évidemment, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc il a pris des énormes crédits, plus des énormes crédits pour faire des travaux dans cet immeuble. Les travaux démarrent, et là, il se rend compte d'un énorme problème. L'immeuble risque de s'effondrer. Il faut le solidifier. Il faut mettre plein de béton. Lui se dit, mais c'est une catastrophe. Je n'ai pas prévu. Il va falloir que je rembourse mes prêts beaucoup plus tôt. J'aurai des dépenses beaucoup plus hautes. Voilà, il rentre. Effectivement, il y a un vrai problème. À ce moment-là, il fortifie cet immeuble. Et il se dit, mais il faut vite que je vende cet immeuble-là, le plus vite possible. Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. J'avais prévu, effectivement, après, soit de le louer, soit de le revendre quand tous les travaux sont terminés. J'ai besoin de le vendre maintenant. Il est en train de chercher quelqu'un à qui vendre cet immeuble-là. Et il n'y a personne. Personne ne veut lui racheter. Un jour, un vendredi matin, un Français arrive. Et le Français est intéressé. Il était de passage pendant 24 heures au Mexique. Il commence à discuter et il regarde les plans et il rediscute et il discute du prix, il discute de plein de choses et le Français vérifie les contrats, il revérifie et les heures passent. Et là, notre ami israélien, il regarde par la fenêtre et il voit le soleil qui est en train de se coucher. On arrive l'après-midi de vendredi. Pas comme ici, c'est à 11 heures, on est encore le jour. Là, en tout cas, le soleil est en train de se coucher. Il dit au Français, il lui dit, regardez, cette transaction est très importante pour moi, mais par contre, il faut la finir dans 1 heure. Dans 1 heure, je dois être parti d'ici. Mais vous savez très bien que vous êtes obligé de continuer, parce que moi, sinon, je repars en France, et donc je ne vais pas pouvoir vous racheter. Il dit, regardez, on a besoin de finir dans 1 heure. Il continue à discuter, et le Français en face, il ne pensait pas qu'il allait partir. Il disait, ouais, il dit n'importe quoi, etc. Il avait dit que c'était effectivement pour Shabbat, pour partir pour Shabbat. 1 heure après, il part. Il laisse donc la chance qui allait le sauver. Et donc, il reste avec toutes ses dettes. Il arrive devant Hachem. Donc, il arrive à la synagogue devant Hachem en faisant la prière de l'Echadodi à l'entrée de Shabbat. Et il dit, Hachem, j'ai fait ta volonté. Shabbat, c'est le Mekor Abracha, c'est la source de la Bracha. Hachem, aide-moi. Aide-moi à trouver vite quelqu'un pour acheter cet immeuble. Et là, les mois passent. Et les semaines passent, les mois passent, le temps passe. Et lui, il est là en disant, mais Hachem, je ne comprends pas. J'ai fait ta volonté. Le 4 Tishrei de cette année-là, en 1985, est arrivé un événement, c'est le grand tremblement de terre du Mexique, de Mexico. Le grand tremblement de terre. Il a fait 10 000 morts, il a fait 30 000 blessés. Les immeubles se sont tous effondrés. Dans le quartier où il y avait cet immeuble, l'immeuble de notre ami israélien, il est resté un immeuble. C'est le sien. C'est celui qui avait été fortifié quelques mois avant. C'est le seul qui est resté. C'était le quartier des membres du gouvernement. Et le gouvernement a voulu lui racheter son immeuble et lui a racheté 5 fois le prix à laquelle il devait le vendre. 3 jours après Rosh Hashanah. J'ai un rave que je connais, il y a même la photo de l'immeuble. Donc un jour, je pourrais essayer de la publier dès qu'on me la donne. Donc, on voit dans cet événement-là, l'Israélien se retrouve désemparé. Il y a besoin de consolider. Finalement, il consolide et les choses ne se passent pas comme prévu. Mais Hachem avait tout prévu. Hachem avait tout prévu. Et lui avait gardé la émouna qu'Hachem était là tout le temps. On a une histoire comme ça. Donc moi, j'habite Bnei Brak. On habite Bnei Brak depuis 10 ans avec notre famille. Et comment s'est passé notre passage de Ranana à Bnei Brak? On habitait Ranana pendant 4 ans. Un jour, j'étudie avec des gens de Bnei Brak et j'amène un Mishlo Achmanot à ma Chavruta qui habitait à Bnei Brak, un Mourav. Et on amène, je suis avec ma femme, on avait des enfants dans la voiture, et on devait aller à Elad, dans une autre ville. On arrive là, devant la maison de Mourav, et là, la voiture se met à fumer. Plein de fumée. Incroyable! La voiture était quasi neuve. Elle se met à fumer. On ouvre, il y a de la fumée de partout. On essaye de mettre de l'eau, refroidir. On ne sait pas quoi faire. On est en plein milieu. Alors, si je ne sais pas, vous savez, la journée de Pourim à Bnei Brak, c'est la fête, c'est explosif. C'est magnifique. Et là, ça passe, ça dure une demi-heure, 45 minutes. On ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, un Rav passe. Il s'appelle Rav Eliaou Dreyfus. Rav Dreyfus, qui était quelqu'un avec qui j'étais en contact au téléphone et qui ne m'avait jamais vu. Et il me regarde comme ça, il me dit... « Ah, c'est vous, Monsieur Berevi? Mais qu'est-ce que vous faites à Ranana? Pourquoi vous ne venez pas à Bnei Brak ?» Ok, il me dit ça. Je lui dis « Oui, 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 c'est peut-être une bonne idée, on va y réfléchir. » Il me dit ça. On rentre dans la voiture, il n'y a plus de fumée. Vous voyez le compteur de température qui descend. Ok. Quelques mois plus tard, j'avais une société qui devait se faire acheter par Google. Juste ça. Google devait racheter cette société. Et Google Haifa, je devais co-diriger Google Haifa. À ce moment-là, on avait la maison à Ranana encore, à ce moment-là, et donc on la met en vente, parce qu'on était en train de finaliser notre achat par Google. On met la maison en vente à Ranana, et finalement, le rachat par Google ne se fait pas. À ce moment-là, on reçoit un coup de fil de Bnei Brak, il y a une maison qui vient de se libérer, un garçon divorce, et donc, la maison qu'il devait acheter, finalement, il n'achète pas. Hop, voilà une maison, pas chère du tout, etc. Enfin, on s'est retrouvés comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, deux événements qui auraient pu... Voilà, on aurait pu dire, voilà, la voiture, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la fumée, on a perdu des heures. Non, premier événement comme ça, plus l'événement où Google n'a pas racheté la société, a fait que, Baruch HaShem, on s'est retrouvés à Bnei Brak. HaShem avait dirigé ma vie. Et ça, en fait, ce que je vous raconte là, vous allez pouvoir tous raconter des histoires comme ça. Il faut juste le voir. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je ne le voyais pas. C'est quand j'ai commencé à étudier ces sujets d'Ashgacha Pratit que je commence à refaire le flashback en arrière. Ah, mais c'est vrai que s'il y avait ça là, je n'aurais pas fait ça. Si ça s'était passé, alors ça n'aurait pas marché. Et là, tous les problèmes d'avant, au final, mais ouais, tout était bien. Tout était bien. Il y a 2 semaines, on a reçu un grand conteneur. Il y a des tzadikim ici en France qui nous ont envoyé plein de vêtements, plein de meubles pour des familles nécessiteuses à Bnei Brak. Et une journée avant, une amie de ma femme l'appelle, qui a vraiment aucun moyen, et lui dit voilà, je vais accoucher d'une fille. J'aimerais avoir si je cherche la layette pour fille. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient m'aider à financer ça? Je vais m'arrêter. Ah, encore 5-7 minutes. Ok. À ce moment-là, le conteneur arrive. On ouvre un carton. Le premier carton, c'est de la layette pour filles. Mais le truc, c'est facile. Ils ont dit, ouais, bon, on a ouvert la layette pour filles, mais il y a plein de layettes pour filles. Non, c'était le seul carton de layette pour filles. Il était le premier. Il attendait. La femme, on l'a appelée, elle est arrivée tout de suite, elle a pris son carton de lettres pour fille. On dit comme ça, on peut voir des choses, on peut se dire que les choses peuvent être simples, mais au final, tout ça, ça a été organisé par Hachem. Une dernière anecdote que je vous dis qui est un peu différente. J'avais un investisseur de ma précédente société, un jour qui était venu me voir à Ananas. C'est un investisseur non juif. Et il était venu me voir pour effectivement travailler avec moi. Et à la sortie de la réunion, il me dit « Jérémy, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Jérusalem, à Yerushalayim, à Jérusalem. » Alors je lui dis « Tiens, viens, on prend la voiture, on y va. » On prend notre voiture et on décide d'aller jusqu'à Jérusalem. On arrive à Jérusalem et là, moi j'arrive et je dis « Regarde, j'ai besoin de prier maintenant. » Donc on est arrivé au Kotel, j'ai besoin de prier. Et tu sais, toi aussi tu peux prier. Toi aussi tu peux prier. Alors moi je prie Mincha, lui il est à côté et il est devant le mur, il est en train de prier, je le vois. Et quand je sors, je lui dis, alors pourquoi tu as prié? Il me fait, pour trouver de bons investissements. C'est son métier, c'est un investisseur. C'était le premier investisseur de Skype, pour ceux qui connaissent. On repart, donc on fait un petit tour dans la ville, on repart, on prend notre voiture et là il reçoit un coup de fil. Son associé était en Espagne. Il vient de rencontrer un Israélien qui veut vendre quelque part de sa société, d'une société israélienne qui vient de démarrer, qui permet de créer des sites internet. Et donc lui, il me dit, Jérémy, tu as besoin de moi ce soir? Alors je lui fais, non, on a terminé, on a vu Jérusalem, moi je rentre ma famille, si tu as besoin de moi, moi je peux venir dîner avec toi. Mais non, alors il dit à son associé, regarde, je peux rencontrer cette société ce soir. Il rencontre les associés le soir même. C'était donc en 2000, on est en 2008, d'accord? Il rencontre les associés, il rachète les parts de cette société. Ensuite, il rachète jusqu'à 20% de cette société. Il investit 10 millions de dollars dans cette société. Cette société s'appelle Wix. Donc à la sortie du cours, vous allez tous aller voir. Wix, il a acheté 20% de cette société. Aujourd'hui, cette société vaut 5 milliards. $2. Elle est cotée en bourse, au Nasdaq. C'est la plus grande société internet israélienne. Tous les Israéliens, tous les investisseurs israéliens ont tous cherché une société comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une société montée par des Israéliens, mais c'est une société si vous allez sur le port de Tel Aviv, le Namal Tel Aviv, tous les bureaux que vous avez autour, c'est Wix. D'accord ? Ça a plus de 1200 personnes aujourd'hui. Alors moi, je raconte cette histoire. Je raconte cette histoire une fois à une conférence et un Israélien me dit, mais c'est écrit, Shlomo HaMelech a demandé ça. Et il y a des psukim que je vais passer pour pas prendre de temps, où il y a Shlomo HaMelech, quand il construit le Beth Amikdash, quand il construit le temple, il demande à Dieu d'écouter les prières des non-juifs afin que ton nom soit sanctifié. C'est Shlomo HaMelech qui a dit, les non-juifs qui arrivent au Kotel écoutent particulièrement leurs prières pour qu'ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Ce monsieur-là s'appelle Marc Toulouse. Aujourd'hui, il est le chairman de la société Wix. Il est chairman, on trouve encore un investisseur, mais il est donc patron, président de cette société. Quand des journalistes sont venus lui dire, regarde, tous les Israéliens, les investisseurs israéliens cherchent à investir dans une belle société Internet. Et il n'y arrive pas. Comment, toi, tu as réussi? Il a dit, moi, j'ai été prié au Kotel avec mon ami Jérémy. Cette histoire, vous pouvez la vérifier de A à Z. Vous allez voir au cours de bourse, vous allez voir l'histoire de Wix, etc. Je l'ai vu, ça s'est passé à côté de moi. Je passe très vite, encore 2 minutes. 2 minutes, merci. J'ai le chef qui est là. On va essayer de passer très très vite. On a la même chose qui se passe. Certaines fois, on voit de l'aide qui nous arrive, mais on voit de l'aide qui arrive des fois chez nos amis. D'accord ? Par exemple, il y a une histoire, il y a le Rav Yecheskel Levinstein qui raconte qu'un jour, il était dans un taxi et il rencontre un taxi qui lui raconte une histoire. Il dit qu'il n'était pas religieux, le taxi. Il lui dit, tu sais, ce qui nous est arrivé avec mes copains, c'est après le service militaire, on part tous en Inde. Et un jour, on est arrivé et un de mes amis s'est fait entourer par un serpent. Et la chose qu'il a dit alors qu'il n'était pas religieux, c'était « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Le serpent est parti. Il fait, ah là là, tu ne peux pas imaginer comment ce copain est devenu religieux. Et Arav Refekel Winkel, il dit au taxi, il dit, mais et toi? Il fait, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à lui. Et en fait, ça paraît ridicule. Mais ça nous arrive. Des fois, on voit des événements qui se passent à l'extérieur, on ne les analyse pas non plus. Donc pareil, on doit arriver à analyser les choses. Je passe, malheureusement, qu'on n'a pas le temps de parler de tout. Il y a une Mara qui dit comme ça. Il y a un ange qui est responsable des naissances, des grossesses, et qui vient devant Dieu avant chaque naissance, et qui amonte le fœtus, et qui montre à Dieu, et qui dit, est-ce que ce fœtus-là va être chacham ou tipesh, intelligent ou bête? Est-ce qu'il va être gibor ou chalash, fort ou faible? Est-ce qu'il va être achir ou ani? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Ça, c'est avant la naissance. On a déjà défini. Et là, la Gemara dit, mais il ne demande pas est-ce qu'il va être sadik ou racha. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf notre crainte du ciel. C'est-à-dire que toute notre vie, les événements qui vont se passer autour de nous dépendent de Dieu, sauf notre volonté de vouloir choisir le bien. Donc voilà, je vous souhaite à tous de faire des bons choix et de vivre toujours avec Hachem pour qu'effectivement, comme on l'expliquait, plus on s'approche de lui, plus il pourra s'approcher de nous et nous mettre à avoir une vie sur mesure avec que du bien.
Amen. Alors, sans transition, dans le journal du 20h, ce que Jérémy m'a offert sur un plateau maintenant la possibilité d'aller vers le couple, je vais vous raconter ce que Rav Elchanan Wasserman a dit sur ce que notre ami Jérémy vient de citer. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman était l'élève du Chafetz Chaim. Il a été tué par les nazis, Yimach Shemam, au fort de Kovno en 1941. Il était à Londres avant la guerre. Il aurait pu rester là-bas. Mais il a dit aux Juifs de Londres, moi je veux revenir, je veux être à côté de mes élèves. Et de toute façon, les souffrances qui précèdent la venue du Mashiach, si elles doivent m'atteindre, elles m'atteindront où que je sois. Et si elles doivent vous atteindre, il s'adressait aux Juifs de Londres, elles vous atteindront où que vous soyez. Il a publié un livre qui s'appelle Kovetz Ma'amarim, et dans le Kovetz Ma'amarim, il dit la chose suivante. La Gemara que Jérémy vient de citer est complétée par une autre Gemara qui dit que 40 jours avant la conception du fœtus, il y a une bat kol, une voix prophétique qui s'exprime et qui dit bat ploni les ploni. La fille d'un tel ira se marier avec un tel. Alors, Rav Elchanan Wasserman pose une question. Il dit, moi j'ai une question à ce sujet. Pour que la fille d'un tel aille avec un tel, il faut donc qu'il se marie. Et pour convoler en juste noce, n'est-ce pas, monsieur le rabbin, il faut venir ici à la synagogue et il faut faire le choix de faire cette mitzvah de passer sous la choupa. Or, une mitzvah, ça dépend du libre arbitre. Comme on vient de le dire, tout vient du ciel sauf la crainte du ciel, ce qui signifie que le choix de faire des mitzvot dépend du libre arbitre de l'individu. Donc comment peut-on dire que 40 jours avant la conception du Vlad, la conception du fœtus, la fille d'un tel est destinée à un tel, puisque le fait qu'elle se retrouve sous la roupa dépend du choix de faire la mitzvah, de se marier? C'est une bonne question, non? Vous êtes avec moi? C'est bon, vous êtes avec moi? Tout le monde est avec moi? Vous me suivez? C'est un problème. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Regardez ce que dit Rav Elchanan Wasserman. Il dit, chez nos sages, il y avait une discussion. Est-ce que, à Kol Bidei Shamaim, tout vient du ciel, point barre, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, ou alors, à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, est-ce que tout vient du ciel, sur la crainte du ciel, il y a un libre arbitre? L'auteur de cette Gemara, qui dit que la fille d'un tel va se marier avec un tel, pensait qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais nos sages ne sont pas d'accord avec lui. Ils pensent qu'il y a un libre arbitre. Il reste sur la question. Si je prolonge son raisonnement, ça veut donc dire que cette idée que la fille d'un tel va se marier avec un tel, ça n'est pas cela la halakha, ça n'est pas comme ça que le monde marche, ça n'est pas comme ça que nos chachamim pensent que le monde marche. Or, on se tourne maintenant vers le partenaire naturel de la Gemara, qui s'appelle le Midrash. On n'est pas ici dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la mystique juive, on est dans le Midrash. Le Midrash, ça fait partie de la Torah orale. On raconte, vous l'avez déjà entendu un million de fois, qu'une femme de la noblesse romaine est un jour venue voir Rabbi Yossi ben Khalafta et lui a dit « Qu'est-ce qui fait votre Dieu depuis qu'il a créé le monde ?» Même les Romains pensent que Dieu a créé le monde, ce qui est une chose facile à démontrer. Si un jour vous demande « Est-ce que Dieu a créé le monde ?» vous expliquerez en 30 secondes, même pas en 10 secondes, que bien sûr il a créé le monde et qu'on peut le démontrer logiquement. Si vous prenez une feuille blanche et vous mettez un verre d'encre devant, et vous mettez une pichenette, l'encre se répand, il n'y a pas un poème de Victor Hugo qui va sortir tout seul. Donc si un poème de Victor Hugo ne s'écrit pas tout seul, le monde qui est des milliards de fois plus complexe, évidemment qu'il a été créé. C'est QFD, ce que Dieu veut, il le fait.
La dame de la noblesse romaine vient donc et demande, qu'est-ce qui fait votre Dieu depuis qu'il a créé le monde? Alors il dit, il fait des mariages. Et elle répond, vous connaissez cette histoire? C'est simple, moi aussi je peux le faire. Elle va prendre des esclaves hommes et des esclaves femmes, elle va les marier, le lendemain ils reviennent, il a un œil crevé, l'autre il a un cousin, il manque une dent, l'autre a le genou. Ça marche pas. Il dit, il est grand votre Dieu qui fait des mariages. Et mes chers amis, la question qui se pose au vu de ces deux textes contradictoires, c'est que nous avons un texte qui nous dit que tout est prévu en matière de mariage, d'accord ? Et Rav Elchanan vient et dit, ce texte, il ne faut pas l'écouter, c'est faux. On ne peut pas penser comme ça, parce que ça repose sur le libre-arbitre. Et un deuxième texte qui vient et qui nous dit, mais bien sûr, voilà, Dieu fait les mariages, il est grand votre Dieu qui fait les mariages. Alors comment on fait ? On y perd notre hébreu ici, non ? Vous savez, oui, il fait ou il ne fait pas ? Comment ça marche ? Alors la réponse, mes chers amis, elle est la suivante. Avant de passer sous la choupa, les gens souvent, ils téléphonent au rabbin. Ils disent, monsieur le rabbin, est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est la personne qui m'est destinée ? Alors moi, je dois prendre un air extatique, comme ça, genre inspiré d'en haut. Quand je suis au droit, je dis, oh Allah, je vois dans tes yeux. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je suis censé dire ? La prophétie, elle a disparu depuis 2500 ans. Il n'y a pas un gadol aujourd'hui, à part tous les charlatans de la terre ou les pseudo-kabbalistes à deux balles, par kabbal, par kabbal, par kabbal, bobol. Il n'y a pas, même les gdolim aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dire si un tel ou une telle sont destinés. La seule chose qu'ils peuvent dire éventuellement, c'est que les noms collent, que ceux qui sont versés dans les dates disent au niveau du mazal. Mais ça n'est qu'une estimation. Les gens disent, voilà, je te vois, bidaoui, moi. Il m'a dit, t'as rien dit du tout, t'as compris tordu ce qu'il t'a dit, parce que la question elle était tordue, et ce que t'as entendu c'était tordu, et la réponse elle était tordue, il t'a rien dit. Personne n'est capable de dire aujourd'hui si une telle et un tel. On peut dire, les noms sont compatibles, les dates sont compatibles, mais ça ne veut pas dire, au sens où les gens l'entendent, qu'il y a un prophète qui est venu qui m'a dit c'est bon. Et vous savez pourquoi ? Une fois, un de mes gendres, il m'a raconté, il m'a dit, j'étais dans le bus, il a fait un cours pour se former comme conférencier. Alors il m'a dit, il était dans le bus, il y avait un chabat qui était dans le bus, il a attrapé un Israélien, c'est un bon Israélien, bien de chez nous, d'accord ? Kadosh v'taor la méhadrine. Alors il lui propose des tefilles, l'autre il lui dit, si tu me montres que Dieu existe, là maintenant je l'aimais. Alors il y avait un type qui était à côté, il lui a dit, si cette preuve elle existait, toi et moi on serait des anges. Personne ne peut recevoir en direct la preuve absolue, la preuve par neuf. La émouna, c'est une éducation. Comme a dit Jérémy, c'est une éducation. Chacun d'entre nous ici, au fur et à mesure qu'il s'éduque, peut apprendre à voir les choses. Mais quand on ne s'éduque pas, on peut s'éduquer à ne jamais les voir. Mais la preuve par neuf, au sens où on l'attend, la preuve absolue comme ça, n'existe pas. Et pourquoi elle n'existe pas dans le mariage ? Avant la choupa, il n'est pas écrit dans le Rambam, dans Maïmonide, qu'un homme, une femme, un homme a l'obligation de trouver son zivoug. Il n'est pas écrit que l'homme a l'obligation de trouver l'âme sœur. Par contre, une fois qu'il est passé sous la choupa, il a l'obligation de penser qu'il a trouvé l'âme sœur. Ah, pourquoi ? Parce que comment on construit un mariage ? Les gens, ils veulent construire le mariage par la prophétie et après le faire durer par la paresse. Alors le rabbin, il vient et te dit, mets le tiercé dans l'ordre. Chavadam lisa isha, quand tu construis ton couple, tu dois le construire par l'effort. Donc je ne vais pas te dire avant si c'est la bonne ou pas. Tu dois d'abord savoir si la personne que tu as rencontrée, c'est une personne avec qui tu partages des valeurs, avec qui tu partages des engagements, avec qui tu partages des désirs, des volontés. Tu dois savoir avec qui tu traites. Tu dois savoir ce que tu veux. En fait, tu dois savoir ce que tu es. Maintenant, une fois que tu t'es marié, alors une fois qu'on s'est marié, il y a deux écoles. Il y a l'école du business, l'école de la vie, l'école de la rue. Qu'est-ce qui est marqué dans l'école de l'université, l'école de la rue, l'école du business, l'école de la yeshiva, l'école de la société ? Elle te dit, si tu investis, tu recevras. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait des efforts, qui travaille, qui investit, qui ne reçoit pas. Il y a une autre école, c'est l'école de la famille. Ça s'appelle en yiddish l'école Mshikpara. Ça veut dire, fais ce que tu veux pendant 40 ans, ta mère continuera à te dire... Mon fils, fais n'importe quoi, ton père et ta mère continueront à te donner. Les parents continuent à donner. Les parents donnent sans aucune mesure,
sans aucune commune mesure avec ce que l'enfant donne. Dans nos familles, de nos parents, nous avons reçu, et même une fois qu'ils sont partis. Moi, mon père, il est parti il y a un an et demi. Là-bas, là, c'est l'Ascara cette semaine. Leilou Nishmato, Aaron Ben Mamar. Je sens aujourd'hui qu'il continue à donner. Je ne sais pas où il est dans le Olam Haemet. Je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il continue à donner. Il n'y a aucune commune mesure. Même nous, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour nos enfants? Donc, à l'école de la famille, c'est l'école. Allez, tu donnes, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. Mais quel rapport entre ce que tu donnes et ce que tu reçois? D'abord, même si tu penses recevoir, il t'a même pas compris ce que c'est de parent. C'est même un gros mot. Par contre, l'école de la société, c'est une autre affaire. Là, si tu as investi, c'est bon. Alors, il y a des gens qui se marient et ils veulent faire fonctionner leur couple sur le mode de la famille. En général, c'est les mêmes que ceux qui ont dit avant, est-ce que c'est le bon ou la bonne? Ça veut dire, comment tu construis? Tu ne construis pas. Tu penses que tu vas recevoir sans investir. Ça, c'est les rêveurs. Maintenant, les gens qui veulent construire comprennent que pour que ça marche, il faut, oui, investir. Alors, avant la choupa, il faut déjà se situer dans la logique de la construction. C'est une éducation. Et si on ne l'a pas fait avant, il faudra le faire après. Et si on ne l'a pas fait après, il faudra faire après. Et si on ne l'a pas fait après, il faudra aussi le faire après le divorce. Parce que l'individu, l'homme, chacun d'entre nous ici, l'homme, la femme, l'être humain, est arrivé dans ce monde, les hamal, il est arrivé pour construire. Il doit construire. Ça veut dire que ce que tu n'as pas résolu dans un premier temps, il faut le résoudre dans un second. Est-ce que tu as un peu dans le second, dans le troisième? Si tu n'as pas dans le troisième, dans le quatrième. Sinon, il reste une solution qui s'appelle le Gilgul. Ça veut dire de revenir. Les gens disent, alors le Chafetz Chaim, il dit dans les Ilkhot de Yom Kippour, il dit, les gens disent, bon, de toute façon, si j'y arrive pas trop, c'est pas trop grave, on s'arrangera, on trouvera des solutions. De toute façon, au pire, je reviendrai. Bon, quand on voit le Shara Gilgulim du Harizal, c'est pas très agréable de revenir. D'accord? Ça dépend, remarquez comment on revient. Les gens qui ont fait des entourloupes, ils reviennent dans le marteau de l'huissier, comme ça, à chaque fois qu'il tape. Pam, pam. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et c'est ce qu'il nous dit, le Rambam. Le Rambam, il dit, tu veux te marier, il faut que tu comprennes qu'il y a un travail à faire. Le couple, c'est un travail. La famille, c'est un travail. C'est un investissement. Quel genre d'investissement? On raconte une fois qu'un homme est rentré chez le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, vous savez, c'était le fondateur de la Chassidut Chabad. Quelqu'un un jour est rentré chez lui et il a commencé à lui crier dessus. Il a dit, vous n'avez pas honte? Vous, vous êtes installé ici comme un mêlère, comme un roi pour rentrer chez vous. Il faut franchir trois gardes, il y a toujours des gens qui sont là, vous êtes comme un roi. C'est quoi cette gava? C'est quoi cet orgueil? Alors, d'un seul coup, le Baal HaTanya, il baisse sa tête comme ça. Vous savez comment les Ashkenazes font Tachanoun? Oui. Et après, une fois qu'ils ne font pas le vidou, comme ça. Après, ils s'assiedent, ils mettent la tête comme ça. Il fait comme ça pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes, il se relève. Il lui dit, écoute, c'est écrit que les dirigeants du peuple juif s'appellent des Rachim. Raché et Béné Israël. Ils s'appellent des têtes. La tête, elle est différenciée du corps. Alors effectivement, les dirigeants, ils doivent, d'une certaine manière, se différencier du âme. Oui, tout à fait. Ils sont obligés d'établir, disons, une certaine distinction entre eux et le âme. C'est normal. Bon, le type, il s'est levé, il est parti. Alors, il y a un des élèves qui s'approche du Baal HaTanya qui lui dit, pour une réponse comme ça, il n'y a pas besoin de mettre la tête sur le rebord de la table. Il lui dit, moi, j'ai appris ça de Moshe Rabbeinu. Quand Korach s'est levé contre lui et a commencé à le critiquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué Vaipol al-Panav. Il est tombé sur sa face. Pourquoi il a fait ça? Il a dit, pendant le moment où il est tombé sur sa face, il s'est scruté. Peut-être que dans ce que dit Korach, il y a quelque chose de vrai. Peut-être que c'est Hachem qui a mis ces mots-là dans la bouche pour me faire réfléchir sur le fait que peut-être j'ai un shemetz, j'ai un petit kometz, j'ai un petit résidu de rien du tout, de gaava, d'orgueil, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis scruté. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, pendant ce temps-là? Il s'est scruté. Il dit, moi, j'ai fait la même chose. Quand cet homme-là, il est rentré, je me suis dit, peut-être que c'est Hachem qui l'a envoyé, qui a mis dans sa bouche des mots que j'ai besoin d'entendre. Alors, j'ai mis ma tête comme ça et j'ai fait comme Moshe Rabbeinu, j'ai réfléchi. Est-ce que oui ou non, j'ai des choses à corriger? Et quand j'ai vu que j'étais épargné, que ce qu'il disait était faux, et que je n'avais rien à reprocher de ce point de vue-là, je me suis relevé et j'ai répondu. Mais non, on va essayer d'expliquer, on va essayer d'utiliser cette parabole, cet exemple-là dans le Shalom Bayit. Combien de fois dans le Shalom Bayit on répond avec impulsivité? Combien de fois, quand l'autre y commence, on continue? Parfois, l'autre y commence pas, mais on l'attend. Il va revenir, je vais lui dire, ça fait une semaine que je me retiens, je vais lui dire, et en avant. Alors, vous savez pourquoi on a beaucoup de mal avec les reproches? Une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal avec les reproches, c'est que tous ici, on a été fait Betselem et Lokim. On a été fait avec la Neshama. C'est quoi la Neshama? C'est pas la Kapara. Neshama, c'est la trace de la perfection qu'on a en nous. Hachem, il a mis de la perfection en nous. La Neshama, c'est une forme de perfection. Maintenant, comme on a cette perfection en nous, on a beaucoup de mal à encaisser les reproches. Beaucoup de mal à encaisser les critiques. Beaucoup de mal à encaisser le fait que l'autre nous dise « tu n'es pas parfait ». Et donc, quand on est face à la critique de l'autre, quand on est face aux reproches, quand on est face à la remise en cause, la première chose à laquelle on pense, c'est comment cette personne, comment ma femme, comment mon mari, peut maintenant me faire des reproches, comment cette personne peut me dire ce qu'elle est en train de me dire, alors que je fais tous les efforts possibles et imaginables. Comment je peux encaisser un reproche? Comment est-ce qu'on encaisse un reproche? C'est très difficile d'encaisser un reproche. On a en nous ce Tselem Elohim, cette Neshama, qui fait qu'on a du mal à encaisser les reproches. On a aussi une autre raison, beaucoup plus prosaïque, avec votre permission, plus simple. C'est qu'en vérité, dans notre vie, on joue au Lego. L'EGO. On joue au Lego. On fait du Lego avec le Lego. Avec l'ego. Ça veut dire qu'on prend les briques de Lego. Et avec ça, on construit un personnage. Personnage, ça vient du latin persona, masque. Alors on construit un masque, on installe un masque, et la personne qui peut le mieux transpercer ce masque, c'est notre conjoint, qui peut venir et nous dire « mais ça ne va pas ». C'est-à-dire qu'en vérité, de manière beaucoup plus prosaïque, on a en nous une force qui s'appelle le Nefesh HaBehemi. Le Nefesh HaBehemi, c'est l'âme animale, qui en fait est une force que les psychologues appellent l'ego, et qui est en fait une force, comme toutes les forces, qui peut être très positive. Il faut avoir dans la vie un petit peu d'ego. Évidemment que dans la vie, il faut exister. Le problème, c'est de conjuguer ce désir d'existence avec le droit à l'existence qu'on donne à l'autre. Et bien, vous voyez, une des raisons, une des bases du mariage, et c'est la raison pour laquelle quand le Rambam Maïmonide dit que l'homme, il doit épouser une femme, il dit pas qu'il doit trouver son zivoug. Parce que le problème de trouver son zivoug, c'est Hachem qui fait les zivougim. Hachem, il fait que des âmes sœurs se retrouvent. Mais l'homme, il ne peut pas penser à cet étage-là. Quand l'homme pense à cet étage, il se trompe. L'homme, il doit penser à un autre étage. L'homme, il doit penser à l'étage de la construction de sa personnalité. Un des plus grands enjeux de la vie, c'est un des plus grands enjeux, un des enjeux les plus fondamentaux, c'est d'arriver à élever son nefesh et à arriver à le mettre au niveau de la neshama. Arriver à mettre la partie animale de son âme, la partie vitale de son âme, là où il y a le sang, d'accord, là où il y a toutes les caractéristiques de l'individu, arriver à la prendre et à l'élever au niveau de l'âme. Quelle est la différence entre le nefesh et l'âme et la neshama? Le nefesh, en réalité, c'est ce qui est le plus proche du corps. Le corps, lui, veut prendre, il veut manger, il veut boire. L'âme, elle veut donner, elle veut partager, elle veut construire, elle veut se projeter, elle veut aller loin. Il y a un midrash qui se trouve dans Kohelet. Kohelet, vous savez que c'est un texte qui a été écrit, Kohelet l'Ecclésiaste, un texte qui a été écrit par Shlomo Aveler. Et Rav Wolbe le cite, il dit la chose suivante. Il dit, l'homme, il va traverser dans sa vie sept mondes. Sept fois, dans le texte de Kohelet, dans l'Ecclésiaste, il écrit « Evel Avalim, tout n'est que vanité. Akol Evel Avalim, tout n'est que vanité. » Sept fois, cette phrase apparaît dans le texte de Kohelet. Ces sept fois ont été inscrites dans ce livre en regard des sept mondes que chacun d'entre nous traverse. C'est qui? C'est quoi ces sept mondes? Premier monde, c'est lorsque l'homme vient au monde, il a un an. Un an, c'est un roi. Tout le monde l'embrasse, l'entoure, tout le monde l'enlace, tout le monde le vénère. À trois ans, c'est un cochon. Il se roule dans la bibine. C'est le langage du Midrash. À 7 ans, c'est un veau. Il saute dans tous les sens. À 20 ans, c'est un cheval. Ou une jument. Un cheval pour trouver une femme, une jument pour trouver un mari. Une fois qu'il s'est marié, c'est un chamor. C'est un âne. À 30 ans, il est Meïs Panav, qui élève la vie par Nastori Bdebeto. Il est insolent comme un chien à 30 ans pour amener de la Parnassa à sa maison. Et à, une fois qu'il est vieux, Iski, une fois qu'il est vieux, Ariouke Kof, c'est un singe. Kol Zenemar Behamaaretz. Tout ça a été dit pour les ignorants. Aval Talmid Chacham, mais pour le Talmid Chacham, pour la personne qui a étudié la Torah, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit Va Meler David Zaken. Le roi David était roi. David était roi. Afalpi, Shaya Zaken, Meler, ou bien qu'il était vieux, il était roi. Qu'est-ce qu'il lui dit ce midrash ? C'est extraordinaire. Vous le trouvez dans le deuxième tome du Aleshour, le livre écrit par Rav Volbeu. La numérotation n'est pas par numéro là-bas, c'est par lettre. Tav Resh Samer. Ça fait l'équivalent de la page 660. Mais Tav Resh Samer, c'est la page Taras. Alors là-bas, il explique un petit peu de quoi il s'agit. En vérité, tout au long de sa vie, l'homme, il a la possibilité de choisir. Venez, on va aller directement à la page du mariage. Au moment du mariage, tu peux construire ta vie comme un cheval. Et une fois que tu es marié, tu peux la construire comme un âne. Mais tu as une autre possibilité. C'est de regarder ce que la Torah te demande. Et là, d'utiliser la force du cheval, qui est la force à l'œuvre au moment où on se marie, et la mettre au service d'un projet qui s'appelle le mariage, qui s'appelle la mitzvah du mariage. Et une fois que tu es marié, tu as la possibilité d'utiliser la force du chamor, de l'âne, pour construire ta vie. Mais tu peux être mangé par la force du chamor et détruire ta vie. Comment ça marche ? Le cheval, c'est un animal puissant, c'est un animal fort, c'est un animal qui incarne la force, la puissance, la chevalerie. Le tiers, c'est les espoirs déçus. Le cheval, c'est la course, c'est la force. Il y a de la puissance dans le cheval, d'accord ? Maintenant, le cheval, il doit être dompté. Il doit avoir un cavalier. S'il y a un cavalier, alors tu vas faire ce que le Rambam Maïmonide t'a demandé. Chayav Adam Lissaïcha. S'il y a un cavalier, s'il y a une cavalière, si cette force, elle est domptée, si elle est utilisée, alors quand tu vas construire ton couple, tu vas utiliser la force de l'âge, la force de 20 ans, la force qu'il faut pour se marier, tu vas l'utiliser, tu vas la contrôler et tu vas chercher à faire monter sur ton beau cheval blanc, monsieur le prince charmant, la princesse Isolde que tu vas ramasser comme ça, tu vas la faire monter, elle va se mettre sur le cheval pour voguer dans les steppes. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas tenir ton cheval, tu vas l'emmener vers un projet, tu vas savoir d'où tu pars, tu vas devoir surmonter des obstacles, tu vas arriver à ton projet, tu vas arriver là où tu as envie d'arriver. Mais une fois que tu es marié, là il faut être plus modeste. Chamor, pourquoi ? Vous savez que la différence entre le chamor et le cheval, c'est que le chamor, lui, il peut porter des tonnes, pratiquement l'équivalent pour lui, d'accord, de quelques tonnes, pendant quelques milliers de kilomètres. D'accord ? À part ça, ce n'est pas un animal si négatif que ça. Par exemple, lorsque Léa a voulu avoir un enfant, elle a envoyé Réhouven sur un âne pour aller chercher des mandragores, des doudaïm, comme c'est raconté dans Parashat Vayeshev. Et là-bas, c'est marqué qu'elle a réussi à mettre la main sur des mandragores, c'est une plante fertile. De ça, elle a eu. Après, elle s'est unie avec Yaakov. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant ? Issachar. Issachar, c'est Yeshtrar. Il y a un salaire. Quand il y a un salaire, c'est qu'il y a une mitzvah. Quelle mitzvah ? La mitzvah d'avoir révélé que chaque parcelle du monde, des plantes, des simples plantes, peuvent servir au projet divin. Avoir mis les plantes au service du projet de la construction de l'Israël. Avoir utilisé le monde comme un grand bêta midrash. Avoir vu dans les plantes la trace de la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem veut avec ces plantes-là ? Qu'elles soient plus fertiles et qu'elles puissent avoir un enfant avec Yaakov. Alors, quand on va donner la bracha à Issachar, on va dire Issachar chamor garam. Issachar, c'est un âne qui l'a amené. Mais quel âne ? Un âne qui était maîtrisé. Qui est fort, tu vois, mais qui est maîtrisé, qui a un propriétaire. Son propriétaire, c'est Léa, c'est Yaakov. Dans la paracha, on parle de quelqu'un qui avait un âne. Vous voyez, c'était Bilam. Quand il est parti à Hachem, il lui a dit, ils sont venus les gens de Balak, ils lui ont dit, bon, on va maudire les Bnei Israël, il dit, laissez-moi, on va voir. Hachem va venir. Ensuite, après, quand il était question de partir, c'est marqué qu'il est parti avec son âne. Alors là-bas, Hachem, il lui dit, toi, t'es un rachat, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est parti avec son âne, c'était Avraham Avinu. Il est parti avec son âne, et là-bas, c'est marqué qu'il avait jeté Neharav Ito. Il avait deux serviteurs Ito avec lui, et là, il est écrit que Bilam avait jeté Neharav Imo. Il avait deux serviteurs avec lui. C'est quoi la différence entre ito et imo? Le mot nahar en hébreu, bahour, une bahoura, c'est un mot de nifrar, c'est une excellence. Par exemple, quand on parle des jeunes un peu agités, on dit vous nahar et tu bilin. Vous nahar. Nahar, c'est un agité. Neharav ici, ça fait référence aux deux yetzerara, deux formes de yetzerara, l'orgueil et la débauche. Quand Avraham est parti sur son âne qu'il maîtrisait, il avait avec lui Shnei Neharav, ces deux yetzer, Ito avec lui, Ito c'est avec lui, mais à l'extérieur de lui. Il marchait, parce que dans le monde, tout individu a un yetzer, mais il les emmenait avec lui, mais sans en être victime. Par contre, quand Bilam est parti avec son âne, il est sur son ânesse, avec laquelle il entretenait un commerce charnel, donc il était vraiment mangé par cette ânesse-là, il avait les Shnei Neharav, les deux yetzer, Imo, avec lui de manière très intime, en lui. Alors, ça veut dire que l'âne, ça dépend ce qu'on en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il va pouvoir construire son foyer? Qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle va construire son foyer? C'est que l'homme et la femme, ils vont dominer le chamor. Ils vont dominer, ils vont utiliser la force du chamor. Il y a beaucoup de choses à porter quand on se marie. D'accord? Il faut porter le découvert, il faut porter les enfants, il faut porter les écoles juives, il faut porter la Aliya, il faut porter le retour ici pour ceux qui reviennent. Il faut porter beaucoup de choses, il faut porter plein de choses. D'accord? Il faut porter, il faut supporter, il faut construire, il faut déconstruire, il faut projeter, il y a plein de choses à supporter. Alors où tu le supportes comme un âne, ça veut dire qu'un âne qui est fort et qui supporte des choses, mais ça veut dire que tu domines. Alors qu'est-ce que tu domines? Tu domines ta colère, tu domines ta rancœur, tu domines ton ego, tu domines que sais-je moi. Toutes les forces qu'un homme et une femme doivent dominer pour pouvoir construire. Ou alors, au contraire, non. Tu laisses tout ça t'envahir. Et effectivement, l'homme, il devient un chamor. Ben, mes chers amis, c'est ce que nous dit le Rambam et c'est ce que dit Rav Elchanan Wasserman. Il dit, regardez, arrêtez de penser que pour construire un couple, il faut lever les yeux là-haut de manière extatique. Arrêtez de penser que quand on est marié, avec des ségoulottes, on va s'en sortir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on se marie, quand on est marié, quand on doit construire son couple, quand on doit faire face aux exigences de son couple, la première force qu'on doit activer, c'est une force de travail. L'individu doit fournir un travail. Alors les gens ils disent, mais moi je fournis du travail. Voilà, moi je donne un coup de main. Je range, je donne un balai. D'ailleurs c'est marqué dans Shulchan Aruch, dans les lois du Shabbat. Même les Amoraïm, Akdoshim, les Tanaïm, Akdoshim, il prenait un balai, celui-là il épluchait le poisson, l'autre il autre chose. C'est le premier article du Shulchan Aruch là-bas. Donc voilà, les hommes viennent, moi je donne un coup de main. La femme elle dit, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai entrepris, regardez ce que j'ai fait. Mais ça, mes chers amis, c'est le syndical du Shalom Bayit. Évidemment que les gens qui sont installés comme des pachas, ils ne sont même pas au syndical du Shalom Bayit. Là, si tu ne donnes pas un coup de main, si tu ne t'investis pas matériellement dans ta maison, tu n'as même pas fait le début de la base, de l'esquisse du commencement. Ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe ailleurs. Il y a toujours un moment, vous savez, depuis le premier couple. Vous savez comment on a fait le premier couple? Il a fallu endormir Adam Arishon. Après, quand il s'est réveillé, il a trouvé sa femme. Depuis cette époque, pour marier les gens, il faut les endormir. Et les gens, ils se réveillent après les Sheva Brachot, ou après le premier mois, ou la première année. Ils disent, c'est qui m'a mis ça là? Alors les gens, ils disent, mais c'était très bien entre nous les 5 premières années, les 10 premières années. Je n'ai pas imaginé des choses comme ça. Je n'avais pas vu tout ça. On s'est fréquenté pendant 7 ans, on se connaissait, on était compte en banque et tout, je ne comprends pas, mais comment on n'a pas vu tout ça? D'abord, tu ne peux pas parler d'une tranche de vie avant de l'avoir vécue. Donc déjà, tu peux vivre 7 ans avec une personne, 15 ans avec une personne, quand tu te maries, ce n'est plus la même personne. Parce qu'une fois que tu es passé sous la roupa, Hachem, il t'a fait un grand cadeau, il t'a amené la bracha, il t'a amené la shrina, la présence divine. Maintenant, ce cadeau, après, il faut le porter. Comme si maintenant, voilà, Jérémy, avec des investisseurs, ils viennent, et ils disent à M. Iti, ils disent, tiens, on te donne 200 millions d'euros. Je dis, quoi? Il dit, oui, on te donne, investis. Je dis, mais qu'est-ce que je fasse? Moi, j'ai des problèmes avec 2000 euros. Non, tu vois, on te donne tout de suite, là, mais tu as une semaine pour investir. Je dis, quoi? Comment? Rabbi Mendel de Vitebsk, c'est un grand maître de la Chassidoute, il disait « La plus grande catastrophe pour les pauvres, c'est qu'ils croient que quand ils seront riches, ça va résoudre tous leurs problèmes. » Hachem, il t'a fait un grand cadeau le jour où tu passes sous la roupa. Il t'a donné 200 millions. Il te dit « Bon, vas-y, maintenant débrouille-toi. » Alors les gens, ils se réveillent un jour, ils disent « Ah, comment ça marche? Pourquoi ?» Où ça commence un couple? Ça commence là où chacun d'entre nous il est infirme. Le couple, il est basé sur le chesed, vous l'avez entendu un million de fois, ça. Il faut donner. Qu'est-ce qu'il faut donner? Le jour où ça devient bizarre, le jour où tu commences à juger, là où tu commences à juger, je ne la comprends pas, je ne la saisis pas, je ne le comprends pas, je ne comprends pas qui est ce singe qu'on a osé mettre dans mon existence. Je ne comprends pas qui est cet être mutant qu'on a osé là-haut me mettre là-haut. Enfin, quelqu'un m'a dit, moi je suis thérapeute du couple, quelqu'un il m'a dit, ah ben là-haut il s'amuse bien le créateur, il nous fait des sales coups. Hein. Ah ben il est bien lui, ah, il est installé. Hein. Ben, alors nous en bas, qu'est-ce qu'on traque hein? Comme ça. De là vous comprenez que les problèmes de Shlom Bayit sont des problèmes de Emouna. Parce que si tu comprenais que le mari et la femme qu'on t'a donné, effectivement Hachem il l'a voulu, et effectivement c'est bon pour toi, et effectivement c'est la personne qui t'est boule adéquate, comment tu le sais? Parce qu'effectivement, le vrai chesed et le couple, il démarre là où tu es infirme. Parce que figurez-vous qu'on a tous des infirmités en nous. Et que quand on arrive à vaincre le spectacle de l'infirmité de l'autre, en comprenant que nous aussi, on a une certaine infirmité, et qu'on arrive à se scruter, c'est là qu'on arrive à faire que le couple y dure. D'où je le sais? Très simple. Ce qui est marqué dans la Torah, dans la macro-histoire du peuple juif, c'est toujours valable dans la micro-histoire, dans le microcosme de nos familles et de nos couples. Abraham Avinu, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors Hachem vient lui dit, je vais te donner un enfant. Il lui dit quoi? Ishmael, il ne va pas vivre. Il dit, non, laisse tomber celui-là. Je vais t'en donner un. Il dit, mais Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant. Attends, elle a 90 ans. J'en ai 99. Comment ça marche? Il dit, Ani Kel Shakai. Il dit, je suis Kel Shakai. Moi, je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. J'ai des noms qui sont en fait la manière dont j'interviens dans le monde. Maintenant, il y a un nom qui s'appelle Kel Shakai. Où Hachem, il vient, il dit, moi, je peux tout changer. Tu ne peux pas avoir d'enfant, je change le système physiologique de départ, tu auras des enfants. Sarah, la même chose. Vous êtes tous d'accord avec moi, avec une femme à 90 ans, un petit peu difficile quand même d'avoir des enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, Hachem, à 90 ans, il va faire que Sarah a des enfants. Abraham Avinu, 99 ans, ce n'est pas évident. Hachem, il va faire qu'il puisse avoir des enfants. À l'aide de quel nom? Kel Shakai. Maintenant, imaginez qu'Abraham, à ce moment-là, il dit, écoute, regarde Hachem, j'ai déjà fait beaucoup pour toi dans le monde. Je t'ai fait connaître partout. J'ai fait savoir que tu étais grand, que tu étais là, que tu as créé le monde. J'ai converti des milliers de gens. On arrête là. Alors Hachem, il aurait dit, mais tu ne crois pas que je peux tout faire? Il dit, non, je le crois. Mais je ne suis pas obligé de l'expérimenter. Alors Hachem, il dit, mais alors dans ce cas-là, tu termines pas le travail. T'as pas compris comment ça marche. Parce que moi, ton aventure et l'aventure du peuple juif, elle démarre maintenant. Tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, c'était pour te préparer au début de l'aventure du peuple juif. Et de fait, ça nous intéresse pas trop ce que Avraham Avinu a fait pendant les 75 premières années de sa vie quand il a convaincu des milliers de gens que Hachem avait créé le monde. Il y a un ou deux psukim là-dessus. Même pas, il n'y a rien, il y a des remezim. Par contre, quand les anges, ils se font la brit mila, et ils se préparent, là, c'est des livres entiers pour nous expliquer, des parachas entiers pour nous expliquer, parce que ça, c'est intéressant. Mais Avraham Avinu, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il était infirme. Et Hachem, il est venu, il lui a dit, justement, là où tu es infirme, c'est là que je vais te montrer que ça démarre. Ce qui est valable au niveau de la macro-histoire du peuple juif, c'est valable pour chacun d'entre nous. Là où tu crois que c'est fini, c'est là que ça commence. Tu dis, mais je ne peux pas la supporter, celle-là. Attendez, je ne peux pas supporter ça. Elle mange, elle est... La femme dit, mais attendez, mais il n'a jamais roté. Il fait des concerts. Il est curant. Je dis, mais je ne peux pas, j'ai un problème de glotte. Etc, etc. Là où tu crois que tu es infirme, là où tu crois que ça n'est plus possible, là où tu crois qu'il faut faire des efforts surhumains, c'est là que ton aventure démarre. Et en général, les gens découvrent ça dans des crises. À l'occasion d'une alia ratée, à l'occasion d'une faillite, à l'occasion d'un problème, à l'occasion d'un déménagement, à l'occasion d'un virage dans la vie qui a été mal négocié. Alors toutes les difficultés s'additionnent. Et d'un seul coup, on a l'impression que tout se ferme. Il vient ici une éducation qui est fondamentale. Ça fait partie de l'éducation à la Emouna. On va terminer avec ça. Quand les Bnei Israël étaient devant la mer Rouge, dans le Rambam, dans Maïmonide, dans l'Ilchot Yesodé à Torah, C'est écrit que les Bnei Israël n'ont pas cru dans Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu, tant qu'ils ne sont pas retrouvés au pied du mont Sinaï, qu'ils n'ont pas entendu Hachem parler à Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est écrit. Je demande, monsieur Maïmoni, je suis désolé, mais dans la Shira que nous chantons tous les matins, ici, dans cette synagogue et dans toutes les synagogues du monde, Asia Shemoshe, il est écrit juste avant, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. C'est écrit que les Bnei Israël ont cru dans Moshe et dans Hachem quand ils étaient devant la mer Rouge. Alors pourquoi tu me dis qu'ils n'ont pas cru tant qu'ils ne se sont pas retrouvés au pied du mont Sinaï? La réponse, elle est qu'il y a des degrés dans l'éducation de la Emouna. Et que un des premiers pas dans l'éducation à la Emouna, c'est de savoir que Hachem, il envoie des épreuves, et que les épreuves qui vont nous faire grandir sont les épreuves relationnelles, et que les épreuves relationnelles les plus importantes sont les épreuves du couple, surtout dans notre génération. Et que les gens qui disent « je vais divorcer, je vais me défaire de cette épreuve, je vais tout lâcher, je ne veux pas en entendre parler, c'est trop pour moi », sont en train de vivre un grand moment de Emouna, s'ils arrivent à comprendre. Hachem a voulu ça. Hachem a organisé ça. Hachem a fait que c'est là que tu devais être. Il a fait que tu dois apprendre ça de cette manière-là, alors tu vas grandir. Mais pour ça, il faut effectivement intégrer Hachem dans sa vie. Quand les gens, leur Dieu, c'est moi, et que les gens disent « mais moi, je ne peux pas supporter ça. Mais moi, je ne peux plus. Mais moi, c'est insupportable. Mais moi, mais moi, mais moi. » Mais qui t'a dit que tu es au centre ? Peut-être qu'en vérité, Hachem, il t'a mis cette épreuve-là. Pas peut-être, c'est sûr. Il t'a mis cette épreuve parce qu'il a envie de te faire grandir. Il a envie que tu accouches de nouvelles dimensions. Tu vas accoucher des nouvelles dimensions. Tu vas accoucher un nouvel être. Tu vas accoucher quelque chose de complètement nouveau. Tu vas faire éclore quelque chose qui était complètement caché, voilé, que tu ne connaissais pas. Et ton couple va prendre son envol. Comme ça, ça marche. C'est donc la raison pour laquelle la première éducation à la Emouna, c'est d'abord l'éducation aux Midot. Pour que quelqu'un puisse avoir de la Emouna, il doit éduquer ses Midot. Il doit éduquer Ben Adam Leatzmo. Il y a la relation avec Hachem, il y a la relation à l'autre, et il y a la relation avec lui-même. Dans Pirkei Avot, c'est Ben Adam Leatzmo. L'individu, pour qu'il puisse avoir de la Emouna, il faut qu'il sache qu'il doit en permanence s'éduquer. Lui, il doit grandir, lui, il doit changer, lui, il doit chercher à s'adapter. Alors vous allez me dire, monsieur le rabbin, c'est gentil, mais c'est théorique, parce que moi, je vais vous dire, et là, hop, c'est reparti, 8 mai. 8 mai en France, c'est un jour férié, hein, c'est pas un système d'argumentation. Alors arrêtez avec 8 mai. Vous allez me dire, oui, mais bien sûr, je connais l'histoire, le machin, le truc, le bidule, et tout, etc. Moi, c'est particulier, l'autre, c'est particulier, et tout, etc. C'est vrai. C'est vrai. Chaque cas est particulier. Chaque histoire est particulière. C'est vrai. Mais ce que cette histoire a de particulier, c'est la manière dont il faut conjuguer ce que je viens de dire. Ça veut dire, ce principe selon lequel Hachem veut que tu grandisses, et il veut que tu puisses faire face à tes responsabilités, et que tu puisses comprendre ta part dans le fonctionnement d'un couple, ce que tu dois, toi, changer, ce travail que toi, tu dois faire, c'est toi avec tes mots dans ton histoire, dans ton vécu, dans ta famille, ça c'est toi. C'est vrai, mais le principe reste vrai. Le principe reste universel. Mes chers amis, il est maintenant 10h05, on a donné ici quelques clés, des clés de Emouna, des clés de comportement, des clés du couple. Vous connaissez toutes et tous le site ToraBox, je pense que vous êtes tous connectés. Vous avez pu constater que c'est un site qui s'efforce de répondre à toutes les demandes et à tous les besoins en matière de diffusion de la Torah, qu'il s'agisse des Midot, qu'il s'agisse de la Halakha, qu'il s'agisse de la Hashkafa, le Limoud des Madames. Est-ce qu'il y a des malades, des Madames ici qui sont branchés sur le limoud au féminin. Y a-t-il des madames branchées sur le limoud au féminin ? Oui, oui, oui. Zaha, d'accord. Les autres, madame, sachez qu'il y a un secteur du site qui s'appelle le limoud au féminin et qu'il y a un site pour les femmes également. Un site entre femmes. Vous êtes branchés sur le site ToraBox pour les femmes ? Ça s'appelle Entre Femmes. Vous avez là-bas des rabbaniot, vous avez là-bas des cours de départ des madames. C'est très intéressant et vous pouvez là-bas poser des questions. Vous avez toutes sortes de réponses. C'est tout à fait passionnant. Qui est branché sur le limoud de la Halakha Yomit ? Quelqu'un est branché sur la Halakha Yomit, messieurs ? Halakha Yomit ? La Halakha quotidienne, d'accord ? Qui est branché sur le Daf Hayomi ? Bon, c'est déjà plus long, là. Il faut avoir du temps. D'accord ? Qui regarde les cours du site au moins une fois par jour ? Une fois par semaine ? Pas compris là. Il y a 100 000 abonnés. Comment ça, c'est quoi? C'est que des adresses e-mail? Je comprends pas. Bon. Alors, d'ordinaire, j'avais un petit écran ici qu'on avait prévu. Le site, vous le connaissez, c'est un site qui a 300 000 visites. On est, je crois, aujourd'hui à 300 000 visites par mois. C'est un site qui est très important. Je pense que c'est vraiment le site qui répond le mieux à toutes les aspirations de la communauté. Vraiment, toute personne qui veut en savoir sur qu'est-ce que la Torah dit sur, il peut se brancher sur le site Torah Box, il aura des cours, il aura des rencontres, il peut poser des questions. Et vous avez vu que toute cette machinerie, toute cette association, tous ces gens-là, c'est plus de 175 intervenants donc sur le site, etc. Maintenant, il y a dans Torah Box le Lev Libo, le cœur du cœur du cœur du cœur du cœur du projet. C'est aussi de ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Le cœur du cœur du cœur du cœur du projet, c'est le Kollel de Torah Box. Qu'est-ce que c'est le Kollel de Torah Box? Aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui font tchouva. Maintenant, vous savez, les gens souvent nous disent « Ah, les gens font tchouva, mais qu'est-ce que vous faites pour le suivi? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir répondre aux questions ?» Alors, le site permet ça. Les rencontres de ce genre permettent ça. Aujourd'hui, il y a de multiples manières d'être suivi, de poser des questions, d'avancer, etc. OK. Maintenant, vous avez des gens qui font le choix de venir étudier la Torah à temps plein. Alors, le kollel, l'association a mis sur pied un kollel. Maintenant, ce kollel, il fonctionne comme les chivotes de Baalei Tshuva. Ça fonctionne en entonnoir. Toute personne qui a décidé de venir étudier pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, de se familiariser avec l'étude, quel que soit son niveau, il peut rentrer au kollel. Et il va avoir des cours à son niveau. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau débutant et un niveau déjà plus avancé. Il y a en général entre 20 et 30 avrichim qui étudient dans ce kollel. Alors nous, on veut proposer aux gens que nous rencontrons de s'associer, mais d'une manière très particulière. Depuis l'aube du peuple juif, depuis l'aube de l'histoire du peuple juif, a été mis au point un système qui s'appelle le système Issachar et Zevulun. La tribu de Issachar étudie la Torah, et la tribu de Zevulun allait faire du business. Maintenant, Issachar et Zevulun sont associés dans l'étude de la Torah de Issachar. Je vous ai dit tout à l'heure, Issachar, ils ont été... C'est la tribu dont sont sortis tout, enfin pas tout, parce que de Yehuda également et de Lévi également sont sortis, mais les grands chefs de Sanhédrin de l'histoire du peuple juif sont sortis de la tribu de Issachar. Maintenant, Issachar, eux, ils étudiaient. Qui était avec eux? Zevulun. Quelle est la particularité de Issachar et Zevulun? La particularité est la suivante, mes chers amis, et c'est cette association que nous voulons vous proposer. C'est tout simplement que lorsque vous prenez en charge un avraire dans le cadre d'un contrat Issachar et Zevulun, vous étudiez ce qu'il étudie. À 120 ans, lorsque vous montez là-haut, on va vous amener des livres. Il dit, voilà, l'avraire qui était là-bas, on va dire, voilà, vous avez étudié Sanhédrin. Il dit, moi, j'ai étudié Sanhédrin. Pas du tout, j'étais dans mon magasin, j'étais dans mon bureau, j'étais occupé à mes fonctions professionnelles, j'ai pas étudié le traité Sanhédrin. Si, vous étiez associé avec un avraire, dont vous avez payé des heures d'études, et vous étiez associé à son limoud. Donc, vous avez étudié cette Torah. Et dire, bon, oui, parfaitement. D'ailleurs, maintenant, vous allez rentrer dans la yeshiva de Rabbi Akiva, la yeshiva de Rabban Gamliel, les grands maîtres, et vous allez écouter leurs shiurim, et vous allez les comprendre. Ça s'appelle Association Issachar et Zevulun. C'est une association qui dit la chose suivante. Chacun d'entre nous a l'obligation d'étudier la Torah, mais tout le monde ne peut pas forcément le faire. Alors il y a une manière d'étudier la Torah quand on n'est pas au Beit HaMidrash, c'est d'être associé par le contrat Issachar et Zevulun. Le contrat Issachar et Zevulun, j'en ai ici, et ce qu'on vous propose... C'est pour un virement de 100 euros par mois, ou 50 euros par mois, ou 250, ou 500, enfin peu importe les moyens que vous voulez mettre. C'est un contrat d'association dans lequel vous parrainez un avraire. Alors, le mot parrainer, c'est le mot français, le mot hébreu, c'est vous êtes choutaf. Vous étudiez la Torah de cet avraire-là. Ça, c'est le contrat Issachar et Zevulun, qui permet de participer donc, à la fois à la vie du kollel et en même temps d'être associé dans l'étude de la Torah, bien qu'on ne soit pas physiquement assis au Beit HaMidrash. Maintenant, quel est l'intérêt de le faire pour le kollel de Torah Box? C'est très particulier. C'est que tout simplement tous les avrichim qui sont dans ce kollel sont des gens qui, il y a 5 ans, 10 ans, et des gens qui avaient une activité professionnelle, des gens qui étaient à l'université, des gens qui étaient à l'armée. Chacun avait une activité. Et ces gens-là ont décidé de consacrer quelques années à devenir des talmidei chachamim. Et le rayonnement de ce kollel, il se fait sentir parce que finalement, aujourd'hui, vous avez sur le site un certain nombre de gens qui ont démarré avec le collège il y a un peu moins d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui donnent des cours. Ça veut dire qu'ils sont réellement, vous êtes à la fois associés à l'étude de ces avrichim, mais également à ce qu'ils vont devenir plus tard, c'est-à-dire à leur essor et à leur développement. Voilà, on reste ici, je suis à votre disposition pour toutes questions, que ce soit des questions sur le cours. Jérémy Bérémy également est là pour répondre à vos questions et on est là également pour ces contrats de Sahara et de Boulogne. Je vous remercie d'être venu. Je vous dis bracha ve'atzlacha et que le Kadosh Baruch Hu yaché et shkinato ve birkato al batechem ve shetisku la Torah ve la Gdoula. Alors vous avez également appelé des brochures. C'est pour toute la communauté. Vous pouvez les prendre en 2, 3, 4, 5, les prendre autour de vous. Les diffuser, on les laissera.